Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de la case rétro, votre rendez-vous 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr. Et aujourd'hui je suis avec Mikado Twix. Comment ça va, Mika?
Bonjour à tous et bien évidemment une excellente année, bonne année à tous, et je suis encore une fois très heureux de partager tous ces grands moments de podcast avec vous.
Et également le papa Looping. Comment ça va, Looping?
Ça va très bien, bonne année à tous.
Et le master Soubikoun. Comment ça va, Soubi?
Salut tout le monde, ça va nickel, bonne année 2015.
Alors on est très content de vous retrouver là pour cette année 2015 et la deuxième partie de notre saison 4 de la case rétro, disponible évidemment sur la case rétro.fr. Et aujourd'hui, pour fêter ça, messieurs, on va parler de Pilot Wings, un jeu de simulation aérienne édité et développé par Nintendo. C'est sorti en 1990 sur Super Famicom et on a dû attendre 3 ans pour qu'il sorte enfin dans notre bel hexagone. Donc messieurs, Pilot Wings, c'est une série qui est assez connue mine de rien des joueurs de notre génération, mais c'est aussi une série qui n'a pas connu énormément d'épisodes comme ça peut être le cas avec d'autres licences de Nintendo. Donc aujourd'hui on va s'intéresser principalement au tout premier épisode de cette série. Donc histoire de se remettre dans le contexte, parlez-nous de votre tout premier contact avec ce jeu. Je commence par toi, Mikado Twix.
Et bien moi en fait j'ai connu Pilot Wings parce que j'avais le fameux copain qui avait acheté la Super Nintendo en même temps que moi. Donc lui il avait eu à l'époque, souvenez-vous, F-Zero, et moi j'avais eu le très sulfureux Super Soccer. Et en deuxième jeu, parce que de mémoire il me semble que il faisait partie des jeux du lancement européen. Et il avait eu également celui-ci. Donc en fait je l'ai connu par le biais d'un copain qui me prêtait régulièrement ses jeux et vice versa quoi.
Ça doit résumer pas mal de débuts de Super NES de beaucoup d'entre nous et de beaucoup de nos auditeurs. Ouais. Toi Looping, ta première rencontre avec ce jeu?
Moi c'est sur la version japonaise
parce que j'avais
j'avais la Super Famicom. Oui. Et pour l'histoire, c'était un mec qui était au collège avec moi qui avait aussi la Super Famicom, et lui il achetait tout de suite les dernières nouveautés. Le Pilot Wings c'est pareil, il est sorti un mois après le lancement au Japon de la console
ou de line-up quoi.
Voilà, ouais. Alors, je lui avais acheté d'occasion. Par contre, je me souviens, c'était un mec qui était pas du tout soigneux. La boîte, elle était défoncée et tout. J'étais un peu dégoûté, mais bon, peut-être que je lui ai acheté peut-être moitié prix. Donc, j'ai pas hésité. Mmh. Et c'était le deuxième jeu que j'ai eu, parce que j'avais eu ActRaiser donc avec la console, et après j'ai lui acheté Pilot Wings.
ActRaiser, souvenons-nous, premier podcast de la case rétro il y a 3 ans.
Fait. Et puis je lui avais acheté aussi Final Fight, un podcast qu'on a fait aussi.
On fait tous les premiers jeux de Looping là.
Ça voilà. Bien. Et puis du coup, je suis content de faire ce podcast parce que j'avais pas relancé le jeu depuis l'époque Super Nintendo quoi.
Aïe.
Donc tu regrettes hein.
Non, mais on va développer. Mais
comment ça se fait qu'on ne relance pas ce jeu?
Voilà, tout à fait. Je l'ai relancé pour les besoins de l'émission et. Bon, on en parlera après.
Et toi, Master Soubikoun, toi, ta première rencontre avec Pilot Wings?
Ma première rencontre a été finalement assez tardive, puisque du coup, je l'ai fait en plus que fin de vie de la console. En fait, j'avais un pote qui, du coup, tu sais, comme ça arrive souvent quand t'as un saut de génération, toi, tu joues avec ton pote, lui, il avait sa PlayStation, c'était le gars qui m'avait fait découvrir la Resident Evil. Mm-hmm. Puis à un moment, il regarde, il fait, en fait, il me reste 3 jeux sur Super NES, du coup, j'en ferai rien, tu les veux? Je prends. Le tas, il y avait Pilot Wings. Donc je l'ai lancé, et déjà, en fin de vie de la console, j'ai eu très mal, mais je reviendrai dessus.
En quelle année? En
96 ou 97.
Ouais. Ouais. Ah oui, quand même, ouais.
Comme il
y a 7 ans après Looping, quoi, à peu près.
C'est ça, Looping, ouais. Voilà, qui doit son surnom justement à ses cabrioles dans Pilot Wings, mais ça sera, on y reviendra dans les anecdotes de Papa Looping. Donc, une rencontre visiblement assez discrète, hein, la plupart d'entre nous. Looping, c'était parce que on lui prête. Mikado Twix, c'est aussi un troisième jeu. Et Soubi, pareil, c'est fin de vie de la console, donc visiblement, c'était pas une énorme
attente. Plus que fin de vie, c'était déjà plus qu'enterré la console.
Donc, avant de passer au gros du débat, on va jeter un œil derrière la boîte du jeu avec le pitch, histoire de voir comment on nous a présenté le jeu justement à cette époque, en 1990, enfin en 93 pour nous. Donc ce texte totalement incroyable, puisque vous imaginez bien qu'avec Pilot Wings le scénario avait une place extrêmement importante. Donc on nous disait: êtes-vous prêt à gagner votre insigne de pilote à l'école d'aviation la plus prisée au monde? Alors rejoignez le club secret Pilot Wings Flight Club, ouais, oula le lapsus, ouais. Flight Club, pour commencer sans plus tarder votre entraînement. Voilà, et on nous explique tout ce qui va nous arriver, mais voilà, c'est l'école, oui, école d'aviation la plus prisée au monde. C'était voilà la manière de nous présenter ce jeu comme si on allait apprendre en gros les rudiments des techniques aériennes. Est-ce que pour vous c'est une bonne manière de vendre ce Pilot Wings, Mika?
Ouais, carrément, parce que moi, on va y venir, mais moi, j'ai c'est un jeu que j'avais, un peu comme Looping, moi, que j'avais jamais relancé depuis l'époque SNES. Mm. Et en fait, je me suis dit, je l'ai scotché à mort, ce jeu, parce que, c'est un peu comme le vélo, tu vois. Pilot Wings, c'est un jeu que tu relances, je sais pas si ça t'a fait ça, Looping, mais, tu le relances 20 ans, 25 ans après, et tu te rappelles direct des commandes, des machins, ce que tu dois faire et tout. Donc, moi, je t'avouerai que je me souvenais absolument pas du pitch sur la carte de couve, mais, pourquoi pas. À l'époque, je pense que ça m'aurait fait assez kiffer, parce que c'était un peu plus tard, mais il y avait quand même des restes de Top Gun qui étaient sortis au cinéma. Et moi, perso,
il est très loin, le Top Gun, là.
Ouais, mais ça passait.
Avec ton biplan, comment tu le sens, le Top Gun, quoi?
Ouais, puis moi, en plus, souvenez-vous, après, j'avais tellement aimé ce genre de jeu que j'avais acheté Blazing Sky, et qu'on avait même fait un numéro sur les fameux jeux de merde, parce que je pensais que j'achetais la suite de Pilot Wings. Donc c'était pour vous dire que j'ai vraiment vraiment aimé découvrir ce jeu, quoi.
Je voulais bien rebondir en fait sur parce que t'as mentionné dans le pitch, il me semble qu'il parle d'une école secrète.
Secret, ouais.
Ouais, et en fait moi j'ai découvert qu'il y avait quand même une méta histoire dans ce jeu.
Méta histoire. Oh putain, Ubisoft sort de ce corps.
Mais attends, mais j'ai découvert ça tout simplement en lisant le livret du jeu. Je vous lis le passage, hein, tout simplement. Peu de personnes connaissent la véritable histoire du Flight Club, son fondateur et son siège social. On a coutume de dire que c'est une école mystérieuse, car personne ne sait vraiment ce qui se passe dans les coulisses.
La première règle du Flight Club, c'est qu'on ne parle pas du Flight Club.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Et tu sais, donc on va y venir, mais t'as des instructeurs, et on apprend qu'il y a un des instructeurs qui est le bruit court qu'il fut jadis un pilote de l'armée de l'air. Et en fait, dans le jeu, on va être amené à faire des missions et on va découvrir qu'en fait, ces gens-là faisaient partie de l'armée, etc. Quoi.
Non.
Il y avait quand même une petite histoire derrière ça, quoi. Derrière Pilot Wing.
La vache, mais merci Looping de nous avoir rappelé ça, parce que je pense qu'on n'avait pas tous, on avait occulté.
Je pense que personne le sait.
Oui, c'est ça. Et puis, voilà. Looping qui avait la version intégralement japonaise, je pense que ça l'a pas effleuré ça à l'époque.
Oui, carrément. Hein.
Ouais, c'est clair. Voilà. Après cette méta histoire totalement incroyable de Pilot Wing qui vous fait trépigner dans vos fauteuils, on va s'en lancer bien sûr, évidemment, tout de suite au gros du débat. Alors messieurs, comme on l'a dit, Pilot Wings c'est donc une école d'aviation, donc là Nintendo se lance, on va dire, dans un côté un petit peu étonnant. Eux qui étaient familiers des jeux de plateforme, là ils arrivent avec une sorte de simulation pas hyper pointue, pas pour les adultes, plus tiré pour les enfants. C'était quand même, pour le début de la Super NES, on peut parler aussi quand même de démo technique, puisque ça vendait le mode 7. Est-ce que toi, Mika, quand t'as lancé ce Pilot Wings, est-ce que c'était pour la simu aérienne ou parce que justement on nous a survendu le mode 7, justement, avec grâce à ce jeu notamment?
De suite je te dis mode 7, hein, parce que c'était le fer de lance des jeux de lancement, enfin en tout cas de la promesse. Ouais, le mode 7, vous allez voir, c'est de la 3D. Bon, il s'avère que ça n'en est pas du tout, hein, mais à l'époque, on nous vendait le côté technologique de la Super Nintendo, c'était le fameux mode 7.
On a eu F-Zero qui servait pour le jeu de course. Ouais.
C'est ce que j'allais dire. Moi, le premier vraiment jeu mode 7 qui m'avait scotché, c'était F-Zero, parce que mine de rien, dans Super Soccer, il y en avait, mais je trouvais que ça marchait pas du tout. Mm-hmm. Et après, tu mets Pilot Wings. Là où ça m'avait surtout scotché, c'est quand y a un moment, tu prends le parachute, et là, tu vois, il est accroché à une échelle, et là, ça grimpe, et là, le décor, il réduit tout. Hein. Mm.
À l'époque, t'as eu une claque, toi, quand même.
Ah ouais, moi, ça m'avait scotché à l'époque. Hein. Vraiment, tu te dis, là, ça y est, c'est vraiment, ça y est, c'est des jeux pour grands, quoi, tu vois.
Voilà, des jeux pour grands looping, toi, est-ce que t'es d'accord avec ça? Est-ce que c'était des jeux pour grands ou est-ce que c'était vraiment pour la claque graphique, pour le on va dire le saut technologique que c'était intéressant Pilotwings, ou c'était justement leur promesse là, de l'école d'aviation que tu puisses avoir différentes activités, différents engins? Qu'est-ce qui te plaisait là-dedans dans ce Pilotwings?
Ouais, je pense que c'était plus le côté technique, hein, vraiment de pouvoir voir énormément de mode 7, parce qu'en plus, donc moi j'avais ActRaiser, c'était mon deuxième jeu, donc j'étais vraiment impressionné par les effets de zoom.
Ah bah c'est sûr, après ActRaiser, tu peux être qu'impressionné par un jeu Super NES, hein.
Mais en plus, faut savoir que la cartouche de Pilotwings, donc il n'y a pas que du mode 7, il y a aussi une puce additionnelle qu'on retrouve dans la cartouche de Super Mario Kart qui s'appelle le DSP1.
Ouais.
Et en fait, on va dire, ça accentue, ça améliore le rendu du mode 7, quoi. Ça épaule le mode 7. Donc, bah, à la base, de toute façon, d'après ce que j'avais cru comprendre, c'est que ils voulaient que le jeu il sorte en même temps que la console, parce que c'était vraiment comme F-Zero, c'était une vitrine technologique.
Ouais.
C'est pour ça que je pense que moi, c'est vraiment le côté technique, oh, puis le fun, quoi, de faire ces disciplines, quoi.
D'accord, donc toi aussi tu le voyais vraiment comme à l'entrée de la Super NES sur le marché comme vraiment une vitrine de ce que
Bah,
capable de faire la Super NES quoi.
tu sais, c'est un peu le jeu que quand t'as des potes qui viennent à la maison, tu dis, tiens, bah regarde, je vais te
Quand
mettre
tu veux
Pilotwings,
montrer
tu
la
vois.
console à quelqu'un,
Voilà.
t'essaies de lui montrer le jeu qui en impose le plus.
C'est ça, voilà. Et donc tu disais, bah hey, t'as vu un peu les zooms et tout, tu vois, c'est voilà, ça. Je pense qu'on le voyait un peu comme ça, quoi.
Ouais, comme les gens qui montraient Tomb Raider quand ils ont eu leur PlayStation, quoi.
Ouais,
C'est
tout à
ça.
fait. Ouais.
Et toi, Soubi, par rapport à ça, est-ce que, vu que toi, tu l'as pas eu en 1990 et que, justement, le coup de la baffe technique, bah, était déjà passé puisque la PlayStation, se lançait, est-ce que toi, vu que t'étais pas excité par ça, est-ce que, justement, le côté multi-activité, ça pouvait te plaire? Qu'est-ce t'as pensé quand t'as regardé ça avec un peu, mine de rien, à l'époque, déjà, un peu de recul?
Alors, pour être franc, et puis bah, je pense que ça va être, ça faisait longtemps que ça m'est pas arrivé. En fait, il y a rien qui m'a excité dans le jeu.
Oh.
Ah non, mais je préfère le
Mais ça va
dire
être
clairement.
intéressant.
Je préfère le dire clairement. En fait, déjà, bon bah oui, il y a le problème de la claque graphique où bah voilà, quasiment 6 ans après, et que quasiment tous les jeux de la SNES avaient fait tous les effets du mode 7 possibles et inimaginables. Quand moi je l'ai eu en main, si tu veux, j'étais là, je fais. Ouais, bon, ok, mais enfin des effets de zoom, de rotation ou autre, j'en ai vu en long, en large, en travers, quoi. Donc,
Surtout mieux fait, après, avec le temps, ils ont été.
surtout mieux fait, etc. Donc bon, bah surtout du coup la claque graphique n'était pas là. Après, bah le fun du jeu, bah, je le cherche encore, mais après, voilà, c'est, tu vois, par rapport à F-Zero qui était une pure démo technique aussi de l'époque, sur lequel je peux encore m'amuser sans aucun souci, même à l'heure actuelle. Bah, Pilotwings, déjà à l'époque, je m'étais fortement ennuyé, et bah, en le relançant encore aujourd'hui, et bah, je me suis encore plus ennuyé qu'à l'époque. Donc voilà, donc, si tu veux, c'est, pour moi, c'est un jeu, oui, ouais, voilà, t'as les différentes épreuves avec l'avion, je trouve que les épreuves sont extrêmement limitées. Déjà, quand t'es avec l'avion, dans les deux premières phases de test, t'es déjà décollé. Donc, t'as juste à passer
Ouais, c'est nous, ouais.
dans des anneaux et à atterrir. Alors bon, voilà, c'est pas super trippant. Le parachute, tu y passes un bon moment avant d'essayer de comprendre comment tu arrives à maîtriser, et tu passes ton temps à plus louper les anneaux sans le faire exprès que à
Ouais,
rentrer
c'est vrai.
dedans. Le jetpack, c'est presque le plus maniable et le plus rigolo, mais c'est pas non plus folichon. Et après, tu arrives au deltaplane où rien que pour atterrir, tu te marres bien, quoi. Donc, si tu veux, moi, de ce jeu, j'en ai sorti surtout beaucoup de frustration. C'est, ouais, t'as la course au score, tu veux essayer de toujours faire au mieux, puis passer les levels. Mais au final, tu vois, les missions sont, je trouve, pas suffisamment accrochantes pour que ça te donne envie d'aller plus loin dans le score, quoi. Tu sais, je veux dire, refaire 15 fois la mission de l'avion à passer entre deux sphères et atterrir correctement, sachant qu'une fois, tu vas atterrir nickel, et le coup d'après, tu vas te gaufrer comme une merde, et tu sais. C'était là, tu fais, non, mais j'avais l'impression d'avoir fait bien, quoi. Tu sais, c'est,
Ouais, bien
après, tu
sûr.
sais que c'est beaucoup plus subtil que ça quand même. Je veux pas être le gameplay est précis, mais c'est juste que le gameplay m'ennuie sévèrement, quoi.
D'accord, ouais, c'est aussi ça qui est un peu étonnant justement au sein de toute la ludothèque de Nintendo, c'est que là d'un seul coup, t'as l'impression qu'ils avaient privilégié leur claque technique pour vendre la console et que malgré un gameplay qui est précis, t'as l'impression qu'ils n'avaient pas assez creusé aussi leur
Ah
jeu.
bah pour moi c'est une pure démo technique ce jeu.
Pour toi, c'est une démo technique.
Ah c'est une démo technique. Après le
Ouais.
contenu n'est pas suffisant pour parce que pareil on y reviendra après. Mais sincèrement en termes de contenu à l'intérieur ah bah t'as plus que vite fait le tour. Hein, je veux dire.
Je vous apprendrai pourquoi.
Looping.
On y reviendra dans les anecdotes. Vous saurez pourquoi justement subi. Je pense que t'as cette impression. J'y reviendrai en fin d'émission.
D'accord, parce que Miyamoto avait la gastro à ce moment-là, donc ça dépêchait de le faire. Bah voilà, donc pour vous, visiblement, c'était une claque technique, enfin au moins une démo technique vendue comme telle en 1990 sur Super Famicom, et que bah justement, ça va être un peu notre petite question à la fin de ce podcast, c'est justement quel est l'avenir des jeux, on va dire démo techniques aujourd'hui quand on en parle en tant que jeu de rétro gaming, c'est souvent là que le bât blesse. Donc on va s'intéresser au gameplay comme l'a évoqué Subi. Il y a pas mal d'engins différents, enfin pas mal, il y a différents engins à
4
manipuler sur le
5
5
5 5
voilà,
ouais
6
donc,
6
Mika
ouais,
sur
tu comptes le pingouin et les
ouais.
Mika sur ce Fly Club voilà de Pilotwings, parle-nous un peu des modes et des catégories d'engins qui étaient disponibles, histoire qu'on se fasse une petite idée justement du contenu du jeu.
En fait, comme on l'a un peu précisé dans le pitch, on doit passer en fait des diplômes pour en vue de faire différentes missions à la fin de tous ces diplômes. Et on commence où bah, dans le menu du jeu, tu as le choix entre le petit avion. Moi, à l'époque, j'appelais ça le vieux coucou,
Oui.
le parachute et le delta plane, je crois, non?
Ouais. Et le jetpack. Et le
Non,
jetpack.
mais en
Non.
premier, t'as le
Au
choix que de
début,
trois trucs.
non, au début, t'en as que deux, c'est l'avion et
Exact,
le
ouais,
saut en
c'est à force d'y
parachute.
jouer. Voilà, donc,
Après, on te
bah.
rajoute le jetpack et après, on te rajoute le deltaplane.
Pour
Donc,
résumer
moi, ma...
aux jeunes joueurs, en gros, visiblement, Pilotwings, c'est juste les permis des véhicules dans GTA.
Ouais.
T'as
Sauf que t'as pas la partie après qui est intéressante.
pas le reste,
T'as
voilà, c'est
juste
ça.
les permis. En fait, déjà, ceux qui ont réussi à finir les permis, ils font, oh, mais il y a un truc après. Ah, voilà, c'est fini. Ouais.
Donc
Ah
Mika,
bon, je...
derrière ces différents engins, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on propose comme mode de jeu et qu'est-ce qu'on doit faire finalement dans le jeu?
Comme je vous dis, moi, le premier truc qu'on fait de suite, machinalement, bah, c'est l'avion, parce qu'on aimait tous faire l'avion. Et bah, comme le dit Soubi, la toute première mission, bah, ça commence, en fait, t'es déjà
Dans les airs.
dans les airs, et puis tu dois passer des anneaux et tout simplement atterrir. Et comme je disais en début d'émission, c'est probablement un truc que j'ai dû faire des centaines et des centaines de fois parce que bah moi la cartouche du jeu je l'ai rachetée il y a pas très longtemps parce que je l'ai vu à pas cher et j'ai fait oh, Pilotwings oh là 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 qu'est-ce que j'aime bien ce jeu-là et tout
Oui.
et quand j'ai lancé le jeu et ben c'est revenu immédiatement j'ai presque réussi à atterrir sans
Presque.
trop
Alors
ouais, non
j'aime
mais
bien le
attends
presque réussi à
attends
atterrir.
non parce que
Je me suis gonflé comme
voilà
une merde,
non
mais
parce que
j'ai
j'ai
presque réussi.
parce que j'ai eu la chance de réviser en compagnie de Looping cette semaine et c'est vrai que dès la première fois je me suis écrasé comme une grosse patate mais en tout cas quand j'y ai joué devant mes enfants en cartouche et tout eh ben sachez que j'ai atterri sans problème du premier coup. Voilà.
Ah.
Donc moi perso bon très honnêtement c'est un jeu qui aujourd'hui et c'est vrai que quand tu regardes il est un peu chiche en contenu mais la fibre nostalgique aidant, c'est un jeu pour lequel j'ai beaucoup d'affect. Et
Ouais.
après, donc là, tu avais la seconde épreuve où tu prenais donc le parachute. Donc comme j'expliquais, eh ben ça commence, t'es en fameux vue de dessus, comme les premiers GTA par exemple.
Ouais.
Et là, il te largue et débrouille-toi. Voilà. Donc tu dois tenter comme tu peux, et ça, selon moi, c'est une des plus dures épreuves, de passer entre les anneaux.
Oui.
Et plus tu te penches, et plus tu as tendance à aller vite. Et après, bien évidemment, d'atterrir le plus dans une cible. Et plus tu es proche du centre, et plus tu fais 2 points. Voilà.
Je trouve que techniquement,
Looping.
c'est la discipline qui est la plus qui tire le plus le mode 7, enfin
De par la vitesse?
par la vitesse, par l'effet aussi de son, parce que
Ouais,
t'as
c'est
l'effet de vent qui tape sur ton costume, enfin ton, je sais pas comment on appelle ça,
la combinaison.
ta combinaison. Ouais. Et je trouve que c'est la discipline la mieux réussie des épreuves.
D'accord. Bah, moi, c'est technique, chiante aussi.
Peut-être chiante, mais techniquement, je trouve que c'est la mieux réussie. Ouais.
C'est celle où tu fais le plus de plouf dans l'eau, quoi.
Et puis, bien ouais, évidemment, qui n'a jamais tenté de tirer le parachute? Parce qu'il y a un moment, évidemment, le parachute, faut l'ouvrir. Il faut appuyer sur A, si je dis pas d'annerie.
C'est ça, ouais.
Et après, bah, tu diriges par gauche et droite ton parachute pour éviter, pour tenter tant bien que mal.
Michael Otwix, c'est Mary Poppins en fait.
Ouais, c'est ça. Et puis, honnêtement, moi, je trouve que c'est une des plus dures épreuves. Mmh. Et puis, bien évidemment, qui n'a jamais fait tout simplement de ne pas ouvrir son parachute et de quand même viser le centre de la cible. Voilà.
Boum. Ouais, tu passes à travers le sol.
Mais c'est ça. Toi, Looping, là, Mikado Twix a parlé d'un contenu un peu chiche, que le jeu était un peu chiche en contenu. Est-ce que c'est aussi ton avis? Est-ce que on en fait le tour rapidement? Comment tu le penses là, ces différents modes, les différents engins? Est-ce que voilà, tu peux te le lancer et te faire de bonnes parties, ou est-ce que tu le lances pour le score? Comment tu fais?
Disons que la personne qui n'a jamais joué, tu passes le premier level et tu t'aperçois qu'il y a un autre véhicule qui apparaît. Enfin, un autre véhicule, une autre discipline qui apparaît.
Oui.
Donc, si tu n'y as jamais joué, finalement, tu vas te dire, ah bah attends, ok, là, j'ai le jetpack en plus. Troisième niveau, enfin, t'as le delta plane en plus. Tu sais, à chaque fois, t'en as un peu plus.
Mm.
Et même après, t'as l'hélicoptère. Enfin, t'as une mission à faire en hélicoptère, quatrième niveau ou cinquième niveau.
Ouais.
Donc, si tu veux, la personne qui a jamais joué et qui connaît pas le contenu peut se dire, bah, il y a encore des disciplines, quoi.
Mm-hmm.
Tu vois, parce que, enfin, quoi que dans le manuel, si tu lis le manuel,
spoilait dans le manuel.
Voilà.
Les faits après, durent pas longtemps, hein.
Ouais, ben voilà. Mais bon, tu peux quand même avoir l'envie de, voilà, d'essayer de découvrir un peu ce qu'il y a de plus en plus dans le jeu, quoi. Et effectivement, et bien évidemment, plus tu progresses, plus les disciplines sont difficiles. Le challenge monte en même temps, quoi.
La difficulté monte, mais est-ce que les activités ont un peu de variété, parce que il y a on va dire 4-5 véhicules différents, donc j'imagine qu'il y a des variations de gameplay, d'accord, mais est-ce que dans les activités qu'on nous demande de faire, vous avez parlé d'anneaux à traverser, est-ce qu'il y a des idées différentes, est-ce que voilà, ça se renouvelle là-dedans?
Pas énormément, pour être honnête. En plus, en tout dans le jeu, il y a 4 maps différentes, donc qui reviennent aussi cycliquement. Et au final, ça sera toujours passer dans des anneaux, atterrir sur une cible. Ça sera toujours les mêmes choses, sauf que disons que les instructeurs vont te demander d'être plus rapide. Après, il y a aussi l'environnement, par contre, qui va changer. C'est-à-dire que tu vas avoir la neige, tu vas avoir le vent.
C'est violent.
Ah,
avec
bah
la
attendez.
Neige, hein.
Oh, ouais.
Le mode, ça y est.
Mode 7
et neige, c'est pas terrible
pour les yeux,
parce que si t'es un peu sensible et que t'es sujet à l'épilepsie, c'est violent.
Tu te mets à trembler sur ton tapis, c'est dégueulasse.
Ah ouais, faut être honnête. Hein.
Donc il y avait une variation dans la météo, quoi, histoire d'apporter plus de difficultés, quoi.
C'est ça, après le jeu se finit sur la nuit. Donc c'est quand même un peu plus dur de viser les cibles, etc. Bon, voilà, quoi. Mais moi, il y avait une discipline que j'aimais vraiment bien, c'était le jetpack.
Ouais, moi aussi.
Vous savez pourquoi? J'y ai repensé et ça me...
C'est la plus facile, non?
Non, c'est pas ça. Alors, ça a rien à voir, je vais vous dire.
T'es un fan de James Bond?
Non, dans L'homme qui tombe à pic.
Exact. Vas-y, développe.
Bah, dans le générique de L'homme qui tombe à pic, on le voyait avec un jetpack dans le dos, quoi. J'ai toujours trouvé ça super, quoi, cette espèce d'engin qui te permet de te propulser dans les airs.
Référence.
C'est Paul Sivers looping, quoi, tu vois.
Ouais, voilà.
Mais moi aussi j'aimais bien, si je peux me permettre, cette épreuve, parce que selon moi c'était la plus facile, parce que évidemment le truc qui donnait le plus de points, c'était d'atterrir au centre de la cible.
Ouais.
Et de tous les véhicules proposés, c'était le plus facile à manier, dans le sens où tu pouvais faire les choses au millimètre, quoi, tu vois.
Mais attends, Mika, tu dis que pour toi le jetpack c'est le plus facile, mais qu'en même temps le jeu est chiche en contenu, c'est-à-dire quoi, que la difficulté monte rapidement, que c'est de moins...
Moi, je trouve, perso, confidence même, en fait, le stage de l'hélico, bah moi je l'avais jamais vu avant les révisions, parce que en fait j'ai toujours été recalé au permis, à un moment j'en avais marre de repasser à la caisse, donc j'ai abandonné, quoi.
Parce que t'as pas expliqué comment ça fonctionne le permis, mais
explique-nous, Zoumi. Oui, pardon.
Donc,
oui.
T'as les quatre leçons, les quatre leçons de base avant de passer à la mission hélico, ouais. Où en fait, à chaque fois, on te donne, donc t'as par exemple deux épreuves et on te dit, bon, bah, pour ces deux épreuves-là, faut que tu fasses un minimum de score de 120. Je sais plus si c'est ça, mais du coup, chaque épreuve va te donner un certain nombre de points. Si t'es en dessous, bah, faut que tu recommences toutes les missions. Et si t'es au-dessus, t'as le droit de passer à la leçon suivante. Et donc, la première, t'as que deux trucs pour faire un peu plus d'une centaine de points. Mmh. Après, t'en as trois pour faire environ 220 points. Et puis, ça augmente au fur et à mesure. Et donc, plus les leçons avancent et plus il faut vraiment réussir à correctement tes quatre missions. Parce que sinon, tu vas vraiment être très, très juste en termes de points.
Ouais.
Donc, le problème, c'est en réussir une, c'est facile. T'as toujours un moment où t'y arrives. Sauf que réussir les quatre, en même temps, lors de la même leçon, bah souvent t'en as toujours une qui foire,
ouais.
T'es genre
une que tu loupes tout le temps, ouais.
Voilà, genre tu te dis bon là j'ai bien réussi ça, tu sais, tu commences par la plus dure, tu dis je vais commencer par le parachute, au moins si j'arrive à faire, ouais, le parachute derrière ça ira plus facile. Tu termines par l'avion, tu dis l'avion ça va aller, puis hop tu t'écrases lamentablement où tu dois atterrir et tu dois tout recommencer. Donc là,
quand il dit tout recommencer, tu dois recommencer le dernier permis passé.
Oui, oui, mais pas la dernière activité du permis.
Ah ouais, non, tu recommences, si t'es sur la quatrième leçon, tu recommences toute la quatrième leçon, quoi.
Voilà. Donc, des fois, pour t'aider, t'avais des stages, on va dire, bonus. Alors, c'était ce qui était frustrant, parce que les stages bonus pouvaient te donner donc des petits points supplémentaires, ce qui faisait que tu passais plus facilement le permis. Sauf que pour l'obtenir, il fallait toujours atterrir sur la plateforme à la con que t'avais sur la map. Donc,
Mouvante, ouais, tout le temps mouvante. Ouais.
Donc, du coup, par exemple, quand tu fais sur le jetpack, t'arrives à peu près à atterrir dessus. Ça, si tu te débrouilles bien, ça c'est réalisable. Quand t'arrives au parachute, là, ça commence à devenir beaucoup plus rigolo pour atterrir sur cette dite plateforme mouvante.
Ouais.
Et t'as plein aussi, tu te marres bien. Il y a que l'avion, il y a pas de,
non, il y a pas
de bonus.
Non.
Donc, t'arrives à des petits stages bonus qui te rajoutent des points et tu peux éventuellement, bah, une fois que t'as passé le quatrième permis, atteindre la nouvelle mission. Tu vas partir à la guerre. Là où tu vas avoir l'hélico et c'est là où tu dis, ah, ça y est, le jeu, il commence enfin. Et t'as terminé la mission et le jeu est terminé.
C'est une boucle. Tu recommences
exactement les mêmes missions en plus dur avec Georges. Ouais, en mode expert, j'ai changé la gueule du décor. Ouais, mais c'est le même décor. Donc chouette, l'avion atterrir, c'était déjà pas forcément évident, mais maintenant on va te foutre une grosse plaque de glace. Si tu roules dessus, bah t'es mort. Ah ouais, ouais. Chouette, trop de bonheur. Quoi. C'est
quand tu finis le dernier permis, tu vas recommencer avec des difficultés supplémentaires.
Ouais, bah quand t'as fini les missions avec l'hélico, c'est-à-dire la première mission où tu n'es plus à faire un permis, c'est-à-dire tu vois t'es dans Gran Turismo, tu viens de passer les permis, tu dis ça y est, je vais enfin faire le mode Gran Turismo et c'est une mission qui en plus est assez chaude parce que bah du coup t'es un hélico, tu dois éliminer tout un tas de trucs au sol là qui te tirent dessus et tu prends un shoot et t'es mort. Donc c'est le genre de truc, tu la recommences un certain nombre de fois avant de la réussir.
Et là où j'en reviens à l'histoire du jeu, faut savoir que cette mission d'hélico, il faut sauver
Soldat Ryan.
Non, pas loin. Il faut sauver les trois premiers professeurs qui ont été kidnappés.
Ouais.
Donc ils te le disent au début, quoi. Et attention, accrochez-vous, par le syndicat du mal.
Celui-là.
Oh là là. Ouais. Donc ça, j'avais pas compris. C'est qu'en gros, une fois que t'as fini le permis, t'as une vraie mission.
C'est ça.
Ouais. Et elle consiste à quoi, cette mission? Enfin, il y a un décor différent, c'est la guerre du Vietnam, qu'est-ce qui se passe?
C'est ça, t'es dans la jungle avec en hélico vu de haut, et tu dois aller délivrer donc ces trois personnes. Tu dois, en fait, tu pars d'un porte-avions,
ouais,
avec ton hélico, tu décolles, et tu dois aller atterrir sur une sorte de base qui est entourée de missiles qui te tirent dessus. Donc tu dois, toi, de hauteur, tu dois tirer sur ces missiles, enfin, ces lance-missiles, en fait. Et ouais, après, tu dois poser ton hélico sur une base, les personnes montent à bord et t'as fini la mission. Mais ce qui me fait rigoler, c'est que toi, t'es un pauvre bleu qui est en train de passer ta licence de permis.
Il t'envoie au charbon, quoi.
Ouais,
direct,
il t'envoie au Vietnam, le gars.
C'est clair.
Mais je crois que, je me dis peut-être une bêtise, mais il me semble que t'es le seul de disponible pour cette mission de sauvetage, qu'il n'y a plus personne sur place, quoi. Ils sont tous en mission. Et ils envoient le bleu bit quoi, tu
vois. Mais dans les permis, dans les activités qu'on a dans le jeu, l'hélicoptère était dispo ?
Non.
Donc c'est-à-dire que tu t'entraînes pour des trucs qui ne vont pas te servir dans ta mission ?
Absolument.
Ouais, ouais. C'est génial ça.
Et ce jeu est une cohérence absolue dans toute sa longueur.
Et en plus, l'épisode hélico, bon, moi, je l'avais jamais vu, donc je l'ai fait un petit peu avec looping, là, cette semaine.
Ouais.
C'est super dur.
Parce que t'as utilisé
hein.
les passwords, c'est ça?
Ouais.
Hein, c'est hélico,
là. Oui, parce que le jeu n'a pas de sauvegarde et t'as des passwords et c'est assez pratique quand tu fais de la révision. Enfin, bref. Et c'est hardcore. J'ai regardé, je me suis dit, attends, je dois être mauvais, j'ai regardé une vidéo. Bon. Je suis mauvais, mais c'est quand même très très dur, hein. Franchement, parce que l'hélico, il est mou.
Et tu sais ce qui est marrant aussi, c'est qu'au départ, donc tu te retrouves avec cette fameuse mission, et ils te disent, bon bah voilà, faut aller sauver. Voulez-vous le faire, oui ou non?
Et si je dis non.
Eh ben j'ai essayé. Et donc il me dit, et le gars il dit, je sais plus ce qu'il te répond. Il te dit mais on n'a pas le choix machin, et après autrement il te dit oui ou non, je mets encore non, et après il dit il te met en anglais genre t'es une poule mouillée quoi.
Ouais.
Et en fait à chaque fois que tu mets non, après il te répète tout le temps la même chose, donc t'es obligé de mettre oui quoi. Mais bon, c'est bizarre qu'ils aient pu mettre oui ou non finalement.
Donc il y a un gars qui vient te voir, il te fait aspirant pilote, tu vas devoir sauver tes anciens coachs en hélico, et là toi tu dis mais j'ai jamais appris à faire l'hélico, c'est pas grave,
c'est ça.
Et le parachute tu l'utilises jamais, c'est ça.
C'est l'avion ça. Non plus,
d'accord.
Ouais.
C'est bien.
Par contre, un truc qu'on n'a pas signalé, c'est que bah tu sais, t'as 4 leçons, donc t'as 4 permis, donc 4 instructeurs différents. Et moi, j'aime bien, parce que ce qui m'avait plu à l'époque, c'est qu'en fonction du score que tu fais, le dialogue n'est pas le même, et surtout leur expression, parce qu'on voit que le visage. Enfin, ils sont au niveau du tronc. Et par exemple, si tu fais un score parfait, tu sais, ils ont les yeux manga, tu sais, où ça fait juste un trait, genre amazing, tu vois. Enfin, ouais. Moi, à l'époque, j'avais trouvé ça vraiment sympa, quoi.
Ouais, tu vois à quoi tu te raccroches dans le jeu, quoi.
J'essaye de vendre mon jeu comme... Moi, j'adore ce jeu. Je suis désolé, Soubi. Je comprends ton point de vue, parce que tu l'as connu trop tard. Moi, l'ai connu, entre guillemets, day one, parce que entre la sortie japonaise et la sortie européenne, c'est passé 2 à 3 ans. Mais moi, je parle avec mes souvenirs d'antan, et j'avais vraiment, vraiment adoré, quoi. Je l'avais trouvé bien dur, le jeu, mais moi, ce qui me plaisait, c'est que c'était un jeu extrêmement zen, où tu jouais à la cool. On en parlait tout à l'heure, mais l'univers sonore, moi, la musique était pas extraordinaire, on y reviendra, mais l'univers sonore, moi, j'aimais bien. Je trouvais que ça, surtout là, le parachute, tout ça, t'avais vraiment le bruit du vent. Puis à l'époque, on disait, oh, j'ai le vent qui me souffle derrière les oreilles, c'est vachement bien. Enfin, tu sais, il nous en fallait pas beaucoup. Elle venait de sortir la Super Nintendo, même Super Soccer. Je disais que c'était vachement bien parce que j'avais que ça, quoi, tu vois.
Ouais. Ouais, mais tu vois, pour moi, c'est tout le problème de ce genre de jeu, et je suis content qu'on l'aborde pour ça, justement, et c'est pour ça que je suis content aussi de le démolir un peu, c'est que c'est le problème des démos techniques où il n'y a pas de gameplay, c'est la vraie pure démo technique, c'est que oui, ça te laisse un bon souvenir quand tu l'as connu à l'époque, dans le mois dans lequel il est sorti, mais dès que tu lui laisses un peu de recul, c'est un jeu qui, moi, pour moi, ne présente plus d'intérêt, tu sais, des années après, en termes de rétro gaming, je le trouve très inintéressant. C'est le jeu, tu dis, en plus, c'est un jeu zen, sincèrement, ça doit être un des rares jeux où j'avais vraiment envie de balancer ma manette à travers l'écran, quoi. Parce que quand tu fais toute une mission, t'arrives à la 4e leçon, c'est la dernière, que t'as réussi tes 3 premières, t'es trop content, tu termines par la dernière et tu te loupes juste à la toute fin, soit en atterrissant avec ton avion, ton deltaplane ou avec ton parachute et que tu te loupes et que tu dois tout recommencer. Mais moi, je l'ai insulté, le jeu. Sincèrement, il y a eu des périodes où j'étais vraiment, où ça m'a énervé, et je trouve vraiment que c'est, en termes de contenu, c'était un jeu paresseux. Après, on peut me dire oui, mais à l'époque, machin ou autre, ça n'empêche pas. Je trouve que les missions, elles sont hyper courtes. À chaque fois, c'est moins d'une minute. Ouais, alors passe dans 2 cercles et atterrit. Je trouve que c'est super large. T'as que 4 décors différents. Ok, tu changes la couleur du décor, mais ça reste que 4 décors différents, parce que ce qu'on a peut-être pas assez précisé, mais quand tu fais une leçon avec les 4 types différents, par exemple deltaplane, avion ou autre, bah c'est le même décor. Donc certes, tu changes de véhicule, mais tu fais encore exactement la même map.
Donc, c'est la même leçon, ouais.
Ah bah oui, donc
c'est pour tout moi... l'intérêt, c'est tout l'intérêt. Comme ça, tu connaissais les cartes par cœur.
Oh bah oui, une carte plat en 2D, hein. Quoi. Donc, si tu veux, voilà, pour moi, le jeu, tu te dis, ah, ça y est, au moment de l'hélico, ça démarre vraiment, il va avoir du contenu. Bam, t'as terminé le jeu, tu vois le truc mode expert, tu relances, tu dis ah bah il y a peut-être justement le mode expert, on va peut-être commencer des leçons un peu plus sexy, et là tu revois ah ben non c'est les mêmes mais en plus dur.
Ok. L'environnement qui change quoi. C'est
ouais tout. Mais.
Mais c'est comme si en fait tu sais t'allumais ton GPS et tu passais en
mode nuit,
en mode diurne et mode nocturne tu vois, enfin donc, ouais, voilà. C'est exactement ça, faut être honnête hein.
C'est donc, dommage ça.
Donc voilà, donc je trouve que le contenu est très paresseux dans le jeu, tu vois. Je pense que des missions qui auraient été réfléchies de manière beaucoup plus sexy, tu sais, parce que le gameplay en lui-même, moi j'aime bien, tu vois, piloter l'avion et compagnie. Mais voilà, tu sais, juste faire des trucs un peu plus sympas, quoi, pas passer dans deux cercles qui en plus sont à peu près bien alignés où t'as juste à descendre avant d'aller atterrir. Tu sais, c'est des trucs où voilà, où tu pars, tu passes dans des cercles, tu dois faire un slalom entre deux trucs, tu dois, enfin, tu vois, tu faisais une vraie mission avec un contenu un peu plus sympathique, et là ça aurait pu vraiment faire quelque chose de bien. Moi je trouve qu'il est vraiment chiche en termes de contenu, et dans les missions, ouais, c'est quand même super light quoi. Et même je pense que j'aurais fait à l'époque, j'aurais trouvé ça super light quand même.
Looping, au-delà du contenu qui visuellement on est tous d'accord sur le fait que ça soit assez pauvre, il y a peu de choses à faire malheureusement dans ce Pilotwings. Le gameplay, on a dit qu'il y avait des variations selon l'engin, mais est-ce qu'il était précis? Michael Otwix a dit que c'était un truc à la cool, ça veut dire quoi? C'était quand même précis, c'était ça se prenait bien en main quoi. Bah, comment tu le ressentais? Est-ce que c'était rigide ce Pilotwings?
Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'on n'utilise pas beaucoup de touches finalement pour chaque discipline. En général, t'as une touche d'accélération pour l'avion, par exemple, c'est une touche d'accélération, une touche de décélération, et avec haut et bas, donc pour lever le nez de l'avion.
C'était inversé, tiens, pour être plus précis dans
l'avion. Oui, je crois qu'il est inversé. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'avait pas mal marqué dans le, par exemple, sur le jetpack, c'était le changement de caméra, qui était pour moi assez nouveau, c'est-à-dire que tu pouvais appuyer sur L et R, et t'avais une caméra vue de dessus qui apparaissait.
Pour être plus précis dans ta descente.
Ouais, voilà, donc, ouais.
Pour l'atterrissage sur la cible, on l'utilisait.
Voilà. Ce qui est dommage qu'on l'utilise pas après dans la mission finale, mais bon.
C'est un peu bah, il est déjà en vue de dessus.
Il est déjà en vue de dessus.
Ouais, voilà. Mais il y a pas la vue de devant, donc moi je trouve que ça fait super bizarre parce que au début tu la cherches la map. T'étais au-dessus de l'eau et tu fais, je vais où?
Tu vas vers le point rouge sur le radar, bah, quoi.
C'est vrai que
ouais.
Voilà.
Oh, chouette.
T'as des informations donc à l'écran, t'as l'altitude, t'as le temps, t'as le fuel aussi si t'as un véhicule à fuel, donc parce que bon tu peux pas non plus rouler pendant des heures avec l'avion comme ça. Ça se prend bien en main, comme disait tout à l'heure Mikado, c'est quand il y a déjà joué, ça revient tout de suite. Ouais. Vraiment, au bout de deux minutes, tu retrouves tout de suite tes repères. Après, voilà, il y a pas énormément de touches à utiliser quoi, c'est très basique quand même, ça reste basique.
Le deltaplane, faut utiliser vent ascendant, un truc comme ça?
Alors ouais, le deltaplane en fait t'es tiré par l'avion, le fameux avion que tu utilises en fait, il te remorque, il te lâche. Et donc t'as des espèces de fumée qui représentent des courants d'air.
Ouais.
Tu dois aller prendre ces courants d'air pour monter à une certaine altitude. En fait, ta leçon c'est de monter par exemple à 500 mètres d'altitude. Donc tu prends le courant d'air, tu montes très très haut, et à partir de ce moment-là, t'as une touche qui te permet de piquer un peu avec deltaplane, et après tu dois frôler le sol et atterrir, lever ton deltaplane et atterrir sur la cible, quoi. Ça c'est assez dur quand même, j'avoue que le deltaplane c'est une des disciplines les plus dures. Hein.
Ah, l'atterrissage c'est juste apocalyptique, c'est super dur à faire. Hein.
Ouais, c'est
il faut
dur,
bien poser les pieds dessus, tu te marres bien quoi.
C'est vrai qu'avec quand on a révisé, franchement deux fois sur toi on s'écrasait, et pourtant on avait l'impression de bien faire quoi, tu vois.
Ouais.
Et le delta, moi j'aime bien parce que si vous parlez de zen, moi j'aime bien parce que des fois tu fais tout sauf la mission. Hein, l'avantage du delta, c'est que t'as pas de carburant, donc tu peux rester en l'air tant que tu te craches pas comme une daube.
Je vais être navigant dans un décor vide.
Oh, il est dur.
Et par contre, du coup, le seul point pour en référence à Gerfo en termes de maniabilité, je trouve que c'est un jeu qui se joue beaucoup mieux au clavier.
Mais tu m'étonnes.
À la croix, t'as toujours tendance à un peu trop appuyer ou rester appuyé appuyer haute. L'avantage du clavier, c'est hop, tu l'orientes, t'appuies deux fois, il est bien orienté, et puis tu le laisses atterrir tranquillou, quoi.
C'est vrai que des fois, avec le biplane, t'as l'impression de faire le petit nana. Parce que, surtout quand t'es en phase d'atterrissage, là, il commence à partir en vrille, et je suis redresse, redresse, redresse. Et puis, là, ça va pas, quoi. Et peut-être qu'au clavier, finalement, ouais, c'est, paradoxalement, c'est peut-être plus fin au niveau des touches, quoi.
Vous aviez parlé de score tout à l'heure, alors ça va être ma question, c'est justement, vu le contenu du jeu, pour quelle pratique il peut être intéressant ce Pilotwings, que ça soit déjà à l'époque la manière dont vous y jouiez, ou alors même aujourd'hui pour un rétro gamer, quelqu'un qui a envie de découvrir cette série, qui ne la connaissait pas, est-ce que ça peut être un jeu à score, est-ce qu'il y a un tableau des scores pour se comparer avec ses potes, est-ce que vaut mieux y jouer un petit peu de temps en temps vu le contenu, Looping, toi, pour quelle pratique tu conseillerais ce Pilotwings?
Y a un truc que je trouve dommage en fait, c'est-à-dire que quand tu passes les leçons, t'as donc on te remet ta licence et t'as une classification qui se fait. C'est-à-dire que t'as classe, attends si je dis pas de bêtises, c'est classe A, B, argent, or. Donc voilà, tu montes par rapport aux points que t'as cumulé en fait.
Ouais.
Et par contre, ce que je trouve dommage, donc tu sais, c'est sympa d'avoir la licence en or. Ouais, tu te dis super et tout. J'ai eu la licence d'or.
Mais t'as pas eu de supplémentaire.
Eh ben, t'as rien de supplément, t'as rien, en fait, parce que le password qui t'est fourni, que t'aies la licence A ou la licence en or, c'est le même password.
Oui.
Donc, au final, t'as une satisfaction parce que t'as fini telle leçon en or, mais...
C'est un succès d'époque, quoi.
Ouais, voilà, et encore, même pas, parce que finalement, quand tu passes à la leçon suivante, t'as le même password, t'as rien de plus, quoi. Donc, c'est ça que je trouve dommage, quoi. Et ça, ils auraient peut-être pu faire quelque chose là-dessus, mais au final, non, t'as
tu
rien.
Tu conserves tes high scores ou pas? Il y a un truc qui s'affiche quelque part,
non,
un tableau?
Non,
c'est... Tu repars à zéro, hein. C'est à zéro, bonjour, ouais. Je m'appelle Big Al, je suis ton instructeur, et puis voilà, quoi.
Ouais.
C'est dommage ça justement que vu qu'on on peut avoir différents niveaux de permis de pas pouvoir justement le graver dans le marbre tu vois histoire de dire tiens essaye de me battre je suis le meilleur au mini-jeu surtout que vu qu'il y en a peu et que tu dois les recommencer en boucle ça devait être limite l'unique carotte qu'on devait avoir c'est d'avoir un high score.
Bah tout à fait en plus avec les comme on l'a dit donc quand t'atterrissais sur ces fameuses petites plateformes mouvantes dans certaines disciplines donc t'avais des bonus stages qui te permettaient de faire encore plus de points. Donc des fois tu pouvais finir donc une leçon en fait c'est un barème de 100 points quand tu fais vraiment le top de ta leçon c'est 100 points.
Ouais.
Et si tu faisais t'atterrissais sur cette petite plateforme, tu pouvais avoir jusqu'à peut-être 70 points en plus. Donc tu pouvais terminer une leçon à 170 au lieu de 100.
Mais
donc,
tu pouvais cumuler.
Tu pouvais exploser, ouais, tu pouvais exploser le score et donc t'avais une licence en or. Mais au final, sur la leçon suivante, tu repartais à zéro.
Ça ne sert donc à rien.
Ouais, tout à fait. Ouais.
C'est sympa pilote, ça.
Un hélico.
C'est ça. Donc toi, Mika de Twix, tu le conseillerais pour des petites parties de temps en temps, ou alors une après-midi entre copains pour le relancer. C'est même à l'époque, comment tu y jouais, tu vois, tu l'as fait en une semaine, en un week-end, ou tu le faisais petit à petit entre deux jeux.
Étant donné qu'on avait que trois jeux, c'était le jeu qui tournait beaucoup, évidemment, mais le copain et moi, on devait être pas bien bon parce que comme je te disais, moi j'ai jamais passé des, je suis jamais allé jusqu'au premier hélico. Du coup, je me suis dit ah c'est vrai que l'avion, je m'en rappelle. Bah ouais, c'est mais bien sûr, bêta, c'est la première leçon, c'est que t'as dû la faire 200 fois quoi, tellement que t'étais mauvais quoi. Moi, j'y ai rejoué vite fait avec mes gamins. Bon bah c'était un petit peu dur pour les enfants parce que techniquement, il est quand même très daté.
Ouais.
Et moi je l'ai acheté parce que j'avais beaucoup aimé à l'époque parce que encore une fois c'était le seul jeu que j'avais pratiquement. Mais pas non plus le scotché à mort quoi. Voilà. À moins que t'aies envie de te la jouer à Hardcore Gamer, hein, c'est pourquoi pas. Mais je l'ai parce que j'aime ce jeu, mais je fais une petite partie de temps en temps, mais ça s'arrête là quoi.
Oui, c'est sûr que vu le contenu, vaut mieux pas y jouer très souvent parce que on va vite être galéré.
Et bizarrement, j'ai un affect. Franchement, j'ai un gros affect sur ce jeu. Je pourrais pas t'expliquer vraiment pourquoi, mais j'aime beaucoup ce jeu-là.
Moi, je le conseillerais pas perso. Après, je peux comprendre que des gens l'aient apprécié. Hein, j'ai pas de souci avec. Mais moi, sincèrement, je trouve que ça vaut pas le coup de perdre du temps, même pour le côté historique, pour le côté rétro gaming. Peut-être que les épisodes 64 et 3DS sont beaucoup plus intéressants. Mais ça, les ayant pas fait, je peux pas dire.
Donc du line-up de la Super NES, pour toi, c'est l'épisode le plus, enfin le jeu le plus faible de leur lancement.
Ouais, clairement. Clairement.
Je suis pas d'accord, moi.
De Nintendo, t'es pas d'accord? C'est quoi le plus faible pour toi?
Ah bah c'est Super Soccer, hein, sans hésitation.
Si tu veux, je comparais par rapport à F-Zero ou enfin c'est les jeux de line-up de Nintendo, quoi. Oui, oui, sinon, oui, par rapport à Super Soccer, je suis d'accord que Perry Twins vaut quand même mieux que Super Soccer.
Il faut rappeler quand même que, entre la version Jap et la version Euro, il y a eu presque 3 ans d'écart, hein.
Il n'y a pas de changement entre les versions, il n'y a pas eu de nouveau niveau.
Non, il n'y a rien eu, mais bon,
il fallait traduire le bruit du vent et tout, c'est chiant.
Non, mais quand il est sorti en Europe, je veux dire, il y avait 3 ans qui s'étaient écoulés au Japon, t'avais déjà des jeux qui étaient beaucoup plus, enfin, supérieurs graphiquement, etc., quoi. Mm. Mais moi, quand je l'ai connu, il venait de sortir le jeu, donc, pour moi, c'était une claque et donc voilà, mais après je peux comprendre que c'est pas un jeu qu'on refait maintenant parce que voilà, il y a eu beaucoup plus beau sur la Super Nintendo et beaucoup mieux surtout.
Mais justement, comme le dit Looping, ça va être vraiment la question qu'on va se poser justement quand on parle de rétro gaming ici sur la case rétro. On parle de jeux qui ont eu un affect pour nous, que ça soit bon ou mauvais, c'est pas, on parle pas que des jeux qui sont forcément excellents et ici, même si on en parle beaucoup, là justement c'est un jeu qui a parlé pas mal à notre génération parce que c'était une démo technique, comme on l'a dit, au lancement de la Super Nintendo, et que ça vendait le mode 7 on va dire de belle manière pour l'époque. On n'avait jamais vu ça, c'était des promesses qu'on nous vendait sur ce qu'allait devenir la Super Nintendo, mine de rien. Est-ce que justement ces démos techniques, est-ce que voilà, au bout d'un moment, pour un rétro gamer, est-ce que c'est pas un petit peu désuet parce que justement ça a tout vendu sur leur technologie et que la technologie avançant, bah le jeu il perd de son intérêt parce que justement, comme l'a dit peut-être Soubi, en termes de contenu c'est beaucoup trop chiche et beaucoup trop paresseux en termes de gameplay. Mika, toi, mais au-delà de l'affect, voilà, justement t'as dit que t'as un affect et tu sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pas justement parce que tu l'as eu à une époque où c'était une nouvelle technique et que...
Ah bah si, complètement.
Comment tu le places dans le rétro gaming, ce jeu? Est-ce que c'est un truc un indémodable, c'est un truc à recommander, ou c'est vraiment voilà, tu dis bah ouais, celui-là il était bien à l'époque.
C'est compliqué parce que moi j'aime ce jeu parce que j'y ai beaucoup joué à l'époque. Mais si tu découvres le rétro gaming, c'est bien de le connaître, mais c'est pas un jeu non plus où il faut s'attarder des heures et des heures, quoi. Et ce qui est assez curieux, parce que tu parles de démo technique, mais F-Zero était également une démo technique, et c'est un jeu que je rejoue très régulièrement, que je trouve toujours aussi puissant, quoi. Et la comparaison est évidente parce que bah c'était des jeux de sortie, etc. Démo
qui utilisait le mode 7, etc.
Voilà, le fer de lance de la Super Nintendo. Et ouais, c'est vrai que Pilotwings, c'est un petit peu raide. Et puis en plus, tu parles de démo technique, mais les faiblesses du mode 7 se voient vachement sur ce jeu, parce que bah déjà il y a beaucoup de clignotements dans le mode 7. Tu sais, quand les zooms se rapprochent, bah plus ça va, plus ça pixelise. Et pour Pilotwings, c'est extrêmement violent parce que quand t'es en haut du parachute ou en haut à 500 pieds ou 500 mètres de haut, bah c'est parfait, le sol est très beau, mais plus tu te rapproches, plus tu te dis tiens, c'est marrant, il y a pas de relief, il y a pas de volume. Et puis t'atterris, en fait ta tour elle est plate, tu vois, et puis c'est des gros carrés de pixels, et
ça a été le pain quotidien de beaucoup de fans de simulation pendant très 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 longtemps, même sur PC, de dire vachement beau, et quand tu t'approches, on a eu ça sur Ace Combat, et c'est vrai que c'est aussi ça, comme t'as dit, la faiblesse du mode 7, c'est qu'on compare par exemple à ce qu'a fait la Neo Geo, bien sûr ce ne sont pas les mêmes bécanes, c'est qu'en gros là tu parlais des zooms, c'est que la Super Nintendo zoom sur un truc qui était à la bonne échelle, et donc justement ça zoome sur des pixels sur un sprite qui devient énorme, et donc on voit les défauts, là où en fait la Neo Geo en gros était de base grosse, et le jeu normal en fait était rétréci, ce qui fait que quand t'avais un zoom ça montrait les sprites tels qu'ils étaient en vrai, donc t'avais moins cette impression de flou dégueulasse.
Il y avait plus de place sur les cartouches aussi, ça doit y jouer, je pense.
Oui, il y avait plus de place dans le porte-monnaie des joueurs aussi.
Oui, mais non, mais dans F-Zero en fait t'as pas de notion de distance par rapport à la hauteur par exemple, donc ça gêne en rien.
T'as pas l'ombre de ton... Oui, dans F-Zero, pardon. Oui,
voilà, et que dans Pilotwings, déjà moi comme on disait tout à l'heure là, j'ai vu les différents niveaux. Là, quand t'arrives dans la neige, avec le mode 7 qui zoome à mort, avec le clipping du... Enfin, ça devient dur aujourd'hui, très honnêtement, quoi.
Donc ouais, difficulté. Toi, Looping, par rapport justement, comme on a dit, le comparo avec Zero est assez juste, comme l'a dit Mika, c'est que d'un seul coup, avec le temps, est-ce que Pilotwings, il tient la route? Est-ce que c'est toujours agréable à jouer, même pour quelqu'un qui n'a même pas connu le jeu à l'époque, quoi?
Bah, c'est surtout que la différence de F-Zero, c'est que Pilot Wing, il y a beaucoup moins de challenge, quoi. Donc c'est pour ça, hein, F-Zero, tu vas le refaire parce que c'est de la course automobile. Il y a toujours ce challenge, même si graphiquement F-Zero a quand même vieilli. On va pas non plus se mentir. Pilot Wing, il y a pas cet attrait. Moi c'est pareil, c'est un jeu que j'aime parce que il y a le côté nostalgique. Mais en étant honnête, je suis pas sûr que quelqu'un maintenant qui le découvre, enfin, il faut forcément faire un Pilot Wing, tu vois, c'est pas un jeu majeur, je trouve, de la Super Nintendo, quoi.
Ouais, et puis d'autant que maintenant avec les Homebrew, F-Zero a enfin un mode multijoueur, donc il y a plus d'excuses, tu vois.
Non, mais
personne n'a essayé de faire un mode multi sur Pilot Wings.
Non, apparemment, non. J'ai pas trouvé ça. Non.
Ah, j'aimerais bien faire, j'aimerais bien voir ça.
Ouais, bah déjà, crash d'avion en l'air.
Déjà faites un high score, les gars, ça sera pas mal. Et voilà, ça coûte rien et puis c'est sympa. Toi, Soubi, par rapport justement au côté démo technique qui vieillissent mal, toi, tu penses que justement ce Pilot Wings, il est vraiment dispensable maintenant comme un jeu de sport, comme tu l'as dit.
Ouais, bah comme je l'ai dit, je le redirai. Déjà, quand je l'ai fait à l'époque, donc en 96-97, il me semblait déjà presque dispensable. Je l'ai fait en période de disette. On m'a offert le jeu, je me suis dit, bah attends, on me le donne, je le fais. Ouais. Et sincèrement, quand je l'ai rangé, bah, j'étais content de le ranger, quoi. Tu fais bon, ça c'est fait. Allez, on va passer à quelque chose de plus sérieux maintenant. Tu vois, c'est vraiment ce que je me suis dit à l'époque, quoi. Donc aujourd'hui, c'est encore pire, quoi. Donc,
c'est surprenant de la part de Nintendo, justement, parce que c'est pas un développeur qu'on attend sur ce genre de truc. Et que c'est dommage, en fait, qu'il y ait eu peu de jeux, donc il y a peu de place pour faire évoluer la franchise, comme s'ils y croyaient eux-mêmes pas beaucoup, qu'ils relançaient de temps en temps parce qu'il y a des fans des années 90 qui disent un nouveau Pilot Wings, et voilà, on a un Pilot Wings, voilà. Bon, on n'a pas d'F-Zero, mais on a un Pilot Wings. Oui.
Ouais, il faut quand même noter que il a quand même été sur Pilot Wings 64, il a été au lancement de la Nintendo 64. Hein. C'était pas non plus une licence qui était mise de côté.
C'était une des licences de line-up. Il y a plein de développeurs qui sont spécialisés dans les jeux de line-up. Hein. Ridge Racer, il n'y avait pas une console PlayStation avant la Vita qui sortait sans son Ridge Racer aussi. Et donc, c'était pas non plus forcément des jeux de qualité. C'était les jeux qu'on avait au lancement qui se vendaient bien, qui faisaient du chiffre parce qu'à la base, il n'y avait que ça, tu vois.
Ouais, mais tu vois, moi, je le connais pas
vision,
trop.
Magnifique.
Le Pilot Wings 64, je le connais pas énormément. Je l'ai essayé un petit peu pour voir un peu ce qu'il en est. Et par contre, ce que j'ai vu, c'est que Nintendo a fait appel au niveau du développement à une société qui était spécialisé dans le développement de simulations de vol pour l'armée américaine. Donc et après ça a fait des jeux vidéo, donc ils ont quand même été chercher des mecs assez calés finalement pour faire un jeu, parce que il est pas moche, hein, le Pilot Wing 64. Il est vraiment pas mal, hein, pour un jeu de lancement de la Nintendo 64. Franchement, c'est une belle 3D. Bon, il y a que 3 véhicules qui sont utilisables. Ouais, c'est pas énorme. Il a l'air assez limité en contenu, mais par contre techniquement,
comment t'es en train de me vendre du rêve là?
Non.
Alors il est beau, ouais, donc comme Pilot Wing à sa sortie. Bon, il a l'air chiche.
Par contre, il y a qu'une piste.
Ouais, comme Pilot Wing à sa sortie. Ouais, ok, d'accord, tu me donnes vachement envie là. Ah, en fait, c'est le même jeu, mais sur Nintendo 64. Quoi.
Le rire de la dépression.
Non, il est moins bien.
Il
n'y
a pas de contenu. Il y a toujours un problème de contenu.
Il y a un problème de contenu, mais par contre, il y a un réel
gap technique.
Ouais, un gap technique et c'est vraiment un beau jeu, quoi. Et donc, je te dis, ils ont fait appel à ces gars-là pour peut-être qu'il y ait un côté technique un peu dans les véhicules, etc. Voilà.
En plus, ils avaient un joystick, donc ça faisait
tu dis que c'est un beau jeu, mais le design des personnages, il est particulier quand même. Hein.
Ouais, il y a un chara-design qui est.
Parce que je sais pas si vous vous souvenez de Oui Oui. Il y avait deux méchants là dans Oui Oui.
Oui Oui.
Et ben, oui
les
oui,
Waluigi, quoi.
Ouais, voilà. Bah ça fait ça, mais en moins bien, quoi. Mais sinon le jeu, moi je l'ai un peu survolé vite fait.
C'est beau.
Bravo.
C'est
pas exprès. Moi je rejoins Looping. J'aimerais bien l'essayer, vraiment. J'ai malheureusement pas la cartouche, donc j'ai pas pu vraiment le regarder, mais j'aimerais bien. mettre mes mains dessus, quoi. Il a l'air sympathique.
Ça reste significatif, hein. Vous avez fait le premier sur Super NES et vous êtes pas jeté sur le suivant sur N64.
On n'avait pas la 60, enfin, moi, j'avais pas la 64.
Moi, je l'avais, moi.
Ah, voilà.
Bah, voilà, toi, t'as l'air pas pris.
Ouais, mais moi, j'ai acheté une Nintendo 64 Mario Kart, c'est tout. Je vous l'ai déjà dit, hein.
Ouais. J'ai hâte que dans 20 ans, on fasse la case rétro sur Rise Son of Rome. Je pense qu'on va bien se marrer aussi.
C'est ça, on dirait, rappelez-vous le podcast de 2015 sur Pilotwings. Ça va être un peu ça. Donc ce Pilotwings, voilà, ce premier épisode de cette franchise, donc sorti en 90 sur Super Famicom, vous a dit ce qu'on en a pensé justement à l'époque, ou un peu plus tard justement, comme l'a dit Soubi, le côté un peu démo technique peut rebuter justement, et le manque de contenu principalement. Donc nous, on vous a dit ce qu'on a pensé. Avant de savoir ce que la presse en a pensé à l'époque, on va se faire une petite pause musicale avec l'OST de Mika de Twix. Qu'est-ce que t'as à nous proposer sur Pilotwings, Mika?
L'OST de Pilotwings. Là, je vais donner du chou gras à Soubi parce que c'est bien la première fois qu'il y a une OST dans un jeu. Je suis désolé, mais qu'il y a aucun titre qui est intéressant parce que c'est plus des musiques d'ambiance et que je dirais plus simplement que c'est simplement des vieilles musiques d'ascenseur. Mmh. Parce que faut savoir quand même que la BO est composée par une certaine Soyo Oka.
Oui.
Plus connu ou moins connu, mais surtout qui est capoté par un certain Koji Kondo. Non. Voilà, donc à qui on doit à peu près l'intégralité des musiques Nintendo, hein. Et malheureusement, moi j'ai bien écouté. Il n'y a pas une musique qui a retenu réellement mon attention. Je vais malgré tout vous proposer un petit medley en fait où la musique. Moi, je me souvenais, c'est le fameux titre qui s'appelle Flying Club, où en fait c'est le menu de sélection où tu dois choisir ton épreuve, et un titre qui s'appelle Helicopter Theme, qui est de ce que j'ai trouvé, ce serait réellement le seul titre composé par Kondo, qui est évidemment le titre utilisé lors de la mission suicide pour aller sauver les otages instructeurs. Voilà.
On va s'écouter ça et on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Soubi-kun. Alors, Soubi, avant ta revue de presse, histoire de savoir ce que la presse a pensé de ce Pilotwings, on va se faire un petit argument market, parce que c'est toujours marrant de voir comment ils nous prenaient un peu pour des teubés.
Ouais, bah forcément, tu sais, l'argument market, il y avait pas beaucoup de pubs à l'époque ou autre, on va pas retrouver. Mais bon, je prends le dernier paragraphe de la jaquette, parce que à lui tout seul, il vaut son pesant de cacahuètes. Mmh. Parce que ce jeu Super NES vous fera découvrir des paysages aériens au réalisme surprenant. Ouais, j'en suis encore tout surpris. vous serez séduit par la beauté des graphismes multidimensionnels, par les horizons sans fin et par le parfum grisant de la liberté.
C'est beau.
Avez-vous le courage nécessaire pour suivre ces cours? Alors, au travail, vous êtes en retard pour votre première leçon. Eh ben, si ça te donne pas envie, ça.
Ah ouais, non, mais ça rend du rêve. Et en même temps, ils disent le réalisme surprenant. Bah oui, voilà, on est surpris par leur vision du réalisme. Voilà.
Donc voilà. Donc en termes de marketing, en même temps, c'est pas forcément facile à vendre ce genre de produit. Donc je les casserai pas trop parce que franchement, ils ont dû bien se prendre la tête. Et donc, pour cette petite revue de presse, forcément, démo technique faisant, bah, du coup, les notes, de manière globale, sont plutôt très très bonnes. Donc, on a quand même un certain nombre de tests. Je vais vous redonner les notes déjà de manière globale pour un petit panel. Chez Gen 4, il a eu 96%. Chez Joypad, il est à 94%. Joystick, la note la plus basse, à 86%. Player One, 97%. Et Super Power.
Super Power, Super
Power avec 94%. Donc, du coup, sur l'ensemble de ces tests, il y a que Joystick testé par JM Destroy qui est un peu plus, qui est en dessous des 90%. Et sinon, il y a rien en dessous de 94%. Donc, c'est plutôt des très très bonnes notes. Et c'est vraiment, bah, en fait, quand tu lis les différents tests, de toute façon, tout ce que tu retrouves, notamment au début, bah, c'est vraiment la mise en avant technique. C'est voilà, bah, c'est le jeu qui démontre toutes les capacités de la SNES. On a du mode 7, du mode 7. Et du mode 7. Ah bah là, comme ça, t'es servi. C'est Looping qui est heureux. On parle que de ça. Et donc, que voilà, c'est des trucs qui sont vraiment, vraiment mis en avant. On parle du graphisme, on parle du mode 7. Alors après, il faut pas se leurrer aussi. Ce qui était intéressant à l'époque, c'est que quand tu compares par rapport au graphisme, par exemple, d'un Flight Simulator, on devait être à la version 4.0, je crois, à l'époque, graphiquement, ça reste quand même en 1990, donc sorti Japon, extrêmement attirant, parce que l'avantage du mode 7, c'est comme tu mets une image, tu sais, t'as pas juste un aplat de couleurs, tu sais, pour faire la plus verte, tu sais, c'est pas juste un carré vert avec un carré noir qui représente autre chose, avec un autre et juste ton avion qui est en 3D. Donc, mine de rien, je peux comprendre qu'à l'époque, surtout parce que donc ils en parlent même sans forcément les citer, ils disent voilà, techniquement, sur les quelques rares simulateurs qu'on a, c'est vraiment joli. Et surtout là où c'est intéressant, et là ce qu'ils n'arrêtent pas de dire, c'est que en termes de simulateurs sur console, donc simulateurs d'aviation sur console, eh ben c'est quasiment le premier pour eux, et c'est surtout vraiment un bon jeu par rapport au fait que c'était sur console, alors qu'avant, bah, tout se jouait sur micro-ordinateur ou sur ordinateur. Donc c'était l'arrivée d'un genre qui était pas fait d'habitude pour la console, et ça, rien que pour ça, je pense que ça les a marqués, et comme on en a pas parlé, je pense que c'est important de le dire.
Un petit effet Gran Turismo, quoi.
Ouais. Alors du coup, il y a dans quelques tests, il y a quand même des passages que je trouve très rigolos. Je vous lis un petit passage de Gen 4 qui m'a beaucoup fait rigoler. Mmh. Alors sachant que au début du test, il vous dit que en gros, enfin un jeu de simulation de vol où on fait pas la guerre. Alors t'es là, tu fais, mais t'es sûr que t'es allé jusqu'à la fin, enfin à la fin, à la moitié du jeu, quoi. Et sachant que c'est bizarre, parce que à mon avis dans le truc, alors soit il est quand même allé jusqu'à l'hélicoptère et donc il a pas réfléchi quand il a écrit son premier paragraphe, mais parce que donc plus tard il le cite. Et dans la deuxième partie du logiciel, une fois votre compétence accrue, vous pouvez essayer le deltaplane ou bien encore l'hélicoptère. Si les épreuves changent, sachez que le théâtre des opérations également. En effet, les aéroports deviennent de plus en plus étendus et leur relief s'élève. Ouais. Alors, je ne sais pas à quel jeu il a joué, mais ça devait pas être celui-là. Parce que s'il y a bien aucun relief, c'est bien dans ce jeu-là. Hein, parce que t'as le sol, c'est un aplat. Hein.
Ouais, c'est donc ça, c'est violent de dire ça.
Ah, du coup, moi, ça m'a beaucoup fait sourire, forcément, vu la fête que j'ai par rapport à ce jeu-là. Donc voilà, c'est ce petit paragraphe que j'ai trouvé très mignon. Et ah oui, alors, et du coup, juste parce que pareil, je trouve ça à la fin du test, donc on arrive encore quelques lignes plus loin. Donc, en fait, Pilot Wings justifie à lui tout seul l'achat de la console. Une chose est certaine, la Super Famicom, même si elle n'est pas officiellement distribuée en France, dispose et ce dès son lancement d'excellents atouts logiciels pour concurrencer ses rivales et semble bien s'affirmer comme la meilleure des consoles de jeux. Attendons tout de même de voir les prochaines productions Super Graphics. Eh ben dis donc. Le gars, il a testé deux jeux sur la SNES et il disait déjà, bon là, on peut dire qu'il était visionnaire parce
c'est
que
ça.
La SNES reste la meilleure des consoles, mais je trouve qu'il s'était quand même avancé vachement vite.
Ouais, c'est ça.
Carrément. Donc ça c'était chez Gen 4, on retrouve après donc pour revenir sur des trucs plus traditionnels, donc chez Joypad, on retrouve en point positif et négatif, bah positif c'est des effets spéciaux fous, zoom et rotation, c'est vraiment ça à chaque fois qu'il revient, c'est les zooms, les rotations du mode 7. Mmh. Un réalisme impressionnant, je pense qu'il a un peu trop lu la jaquette.
Oui, c'est ça.
Une bonne jouabilité générale pour un réel intérêt, et en négatif, on a les mouvements sont trop limités, la durée de vie est un peu limitée par le système de mot de passe. Donc voilà un autre avis. Alors ce qui est très rigolo par exemple, c'est chez tous les tests en général sont sur une page ou une demi-page chez Joystick, sauf donc dans le cadre par exemple de Player One, où là le test il est sur 4 pages. Crevette, oh. C'est lâché.
Crevette.
Alors en lisant le test, bah c'est bien, vous avez lu tout le jeu, parce que alors là pour le coup, il y va à fond, il vous décrit l'intégralité du jeu. Donc là, il va vraiment à fond dans tous les détails, les missions, comment ça se passe, jusqu'où t'arrives, ce que tu peux faire, etc. Donc en soi, c'est un bon test. Après, c'est juste que bah voilà, le résultat final, on en arrive toujours sur la conclusion avec un 97% d'intérêt. Et du coup, le truc, la conclusion, la dernière phrase, c'est une pure merveille, tant au niveau technique que passionnel.
Que passionnel.
Que ouais. Passionnel.
C'est un bel argument.
Voilà.
C'est donc, dit technique, tu t'attends après à que jouabilité est passionnelle. Ouais. D'accord.
Et donc, juste pour terminer avec Super Power, pareil avec la conclusion de Super Power.
Super Power.
Super Power.
Super Power.
Ce jeu est incontournable, ceux qui tentent de s'en approcher ne sont que des pâles imitations. Pilotwing n'est donc pas seulement une référence, mais le seul jeu de ce type à vraiment mériter un intérêt qui reste sans limite. En effet, ce n'est pas vraiment pour le scénario, mais le fun repose sur des superbes images et des rotations à vous donner le tournis. Dès lors, l'intérêt de Pilotwing n'est plus à démontrer, même s'il faut le voir pour le croire.
Ouais, bon. Super donc, Power, c'était les vendus de la Super Nintendo. Hein.
Mais, ouais, mais il te dit que le fun vient du graphisme.
Ah oui,
c'est
oui,
quand même pas rien. Je ouais, trouve que...
C'est beau.
Et je tenais à te faire une petite dédicace parce que l'auteur de ce test s'appelait Frédéric Bailly et j'ai pensé à toi du coup en le voyant.
Merci Fred, c'est un cousin éloigné. Ah bah c'est mignon ça. Un jour j'aimerais bien qu'on ait des mecs de Super Power, on va bien se marrer avec eux. On fera un jour, oh là là, imaginez un podcast spécial Super Power. Où à la fin les mecs nous disent en fait, on jouait pas à ces jeux.
On recevait les communiqués de presse de Nintendo.
C'est ça, on recevait, on avait un stagiaire qui recopiait les communiqués, nous on jouait au ping-pong.
C'est ça.
C'est après, tout. Sans vouloir les défendre, j'avais l'impression qu'ils avaient plus joué au jeu que Gen 4, hein, mais après.
Bah, si je suis là, vers sympa. C'est tout pour la revue de presse, Soubi?
C'est bon.
Et on va passer aux anecdotes de ce Pilot Wings avec notre papa Looping. Looping, tu nous as fait une petite promesse, tu nous as fait un teasing, justement, à propos du contenu du jeu, donc c'est à ton tour. Place aux anecdotes de Papa Looping.
Alors, je vais vous expliquer pourquoi Pilotwing est comme il est, comme on l'a connu en fait. À la base, en 88, quand Nintendo a commencé à montrer les prototypes de la Super Famicom, on peut retrouver des scans dans les magazines d'époque. Donc, on voyait la SNES comme elle devait être. Elle n'était pas tout à fait comme on l'a connue. Et il y avait aussi quelques photos de jeux, dont Super Mario World, Super Mario Bros 4 à l'époque, ouais. On l'appelait comme ça. Et il y avait un jeu qui s'appelait Dragonfly.
Ah.
Donc, Dragonfly, qu'est-ce que c'était? C'était un peu comme on a parlé Mikado, une sorte de jeu de le Baron là, le Baron Rouge, là, une sorte de jeu de shoot d'aviation qui exploitait énormément le mode 7.
Panzer Dragoon avant l'heure quoi.
Ouais voilà, mais bon, tout en mode 7 quoi.
Oui.
Et donc quand vous revoyez ces screens, et ben vous reconnaissez un peu les maps de Pilot Wings. Et il s'avère
ils ont fait du gros recyclage.
Et ben voilà, il s'avère que finalement Dragonfly a été abandonné, mais ils ont récupéré donc une partie du projet en cours pour faire Pilot Wings. Donc j'imagine que ça a été fait un peu précipitamment pour le lancement de la console. Donc voilà,
ils avaient le gameplay, ils ont essayé de voilà, de faire un truc rapidos quoi.
C'est ça. Pour moi, c'est ça. Je vous mettrai les screens en lien dans le billet de l'émission. Donc vous verrez
d'où les courants ascendants. Certainement qu'avec le dragon pour grimper.
Non, alors c'est non, rien à voir hein, c'était un avion, ça s'appelait Dragonfly, mais c'était un avion.
Ah, tu me casses tout, je croyais que c'était un dragon.
Non, c'était un, et en plus pour vous dire on voit le menu le générique de Dragonfly, vous savez Pilot Wing sur l'écran titre, il arrive en rotation.
Oui,
sur
exact,
l'écran.
Ouais.
Voilà, et ben Dragonfly arrivait de la même façon.
D'accord.
Voilà. Et c'était une sorte de Baron Rouge, quoi. C'était un okay. jeu d'aviation, un jeu de shoot de guerre.
Et après, il y a eu Blazing Sky, quoi.
Voilà. Ça. Ouais. Voilà. Mais là, c'était du 100% Nintendo. C'était du développement Nintendo.
C'était un dragon.
Non. C'était un jeu d'avion déjà. Et donc, qui était vraiment un jeu de combat aérien. C'était pas une simulation comme on l'a connu après.
Ouais.
Donc moi bon, j'imagine que voilà le jeu a été un peu bouleversé,
trop violent machin
la ouais guerre, ou bien. Alors il fallait que ça sorte et puis pour le lancement de la console et voilà donc ça a été modifié quoi. Et donc on peut retrouver en fait comment dire des ébauches de cette chose là parce que on a parlé de l'hélico.
Ouais.
Et il s'avère que il existe une ROM debug qu'on peut trouver sur le net qui permet d'accéder à en fait une mission. En fait l'hélico était prévu pour être aussi une discipline.
D'accord.
Donc il y a, vous savez, quand vous sélectionnez la discipline, vous avez un effet graphique, enfin vous avez le on voit le parachute, on voit l'avion, on voit l'icône. Ouais. L'icône de l'hélico existe sur la cartouche.
Il était
prévu comme une discipline et donc avec cette ROM debug on peut on a même le prof, bon c'est le prof de la première leçon qui te dit voilà tu vas passer avec l'hélico dans deux cercles de couleurs, enfin comme dans le jeu, sauf que quand tu lances la mission en fait tu vois l'hélico il fait plouf dans l'eau direct. Bon,
d'accord,
parce que c'est pas finalisé, c'était pas fait pour être lancé, mais c'est dans le jeu.
Il est en vue de dessus aussi.
Ouais, il est en vue de dessus. C'est pareil que la mission de la jungle, apparemment, mais on voit presque pas parce qu'en fait, dès que la mission se lance, pouf, il tombe.
D'accord.
Dans le... Mais si tu veux, il y a le menu, quoi. Tu vois l'icône de l'hélicoptère et t'as le prof qui dit voilà, tu vas faire ta mission avec ton hélicoptère, etc.
D'accord.
Et dans Dragonfly, tu avais une mission, t'avais aussi un hélicoptère. Et on voit cette vue de dessus, etc. Donc tout ça, c'est un peu lié en fait au développement de ce jeu, quoi.
Dragonfly. D'accord.
Dragonfly, voilà. Alors, une petite anecdote aussi que j'ai aperçue, dans la version européenne et la version US, le Pilot Wings qui arrive en rotation est écrit tout en gris.
Ouais.
Et pour une raison que j'ignore, sur la version japonaise que j'ai connue, les deux I de Pilot Wings, les points sur les I sur la version japonaise sont en vert et rouge.
D'accord.
Voilà. Petite différence entre les deux cartouches.
Pour la 3D.
Voilà, je sais pas. Sur in-game, voilà, les deux i sont en couleur. Bon,
c'est beau. Ouais,
j'ai pas trouvé pourquoi, mais bon.
Supérieure version japonaise.
Peut-être, je sais pas. Et dernière anecdote, il existe une version très 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 rare de Pilot Wing. Alors là, je vais vous narrer un peu la chose. C'est-à-dire que en 91 et 92 aux États-Unis, ça existait aussi en France et au Japon, Nintendo organisait des concours nationaux.
Oui.
Là, c'était les Nintendo Challenge Campus, donc qui voyaient se faire affronter des campus universitaires. Ouais. Et donc, pour ce faire, Nintendo parrainait ces concours. Il y avait quand même une récompense de $10,000 à la clé pour le premier, hein, c'était pas rien, et puis des consoles, des jeux, etc. à gagner. Mmh. Et donc Nintendo avait fait passer donc dans les campus avec ces fameuses ce concours, ils avaient fait une cartouche. Alors je l'ai apparemment, ce que j'ai pu lire, c'est qu'elle existe à 3 exemplaires dans le monde.
Oui.
Pour vous expliquer un peu comment ça se présente, vous voyez un peu les copieurs de disques qu'on mettait, que Mikado connaît bien.
Non, je n'ai jamais connu.
Je sais pas. Non, je sais pas de quoi tu parles.
C'est un gros adaptateur qu'on met sur la console dans le port cartouche.
Ouais, je vois pas.
Donc bon, voilà. Et donc à l'intérieur de cette grosse cartouche, il y avait 3 éprômes. Donc il y avait une éprôme de Super Mario World, une éprôme de F-Zero et une éprôme de Pilot Wings. Et donc chaque joueur avait donc 6 minutes 21 secondes, quelque chose comme ça, ou 24 secondes, pour faire le challenge qui lui était proposé. Donc le challenge, c'était premièrement, il fallait, dans Super Mario World, qu'il récupère 50 pièces le plus rapidement possible.
Ouais.
Donc après ça switchait sur F-Zero, donc il se retrouvait au lancement de départ, il devait faire deux tours de piste.
D'accord.
Il finissait ses deux tours de piste, il se retrouvait dans Pilot Wing et il devait faire deux atterrissages en parachute.
C'est
et
génial
tout,
ça.
Et tout ça en 6 minutes 24. Donc c'est-à-dire si tu traînais, t'avais un time up qui apparaissait, donc c'était terminé. Et si tu y arrivais, bah t'étais parmi les classements. Et donc ils ont fait ça avec cette cartouche dans 35 campus en 1992. Et donc cette cartouche vaut une fortune.
Ah, énorme.
Voilà, voilà.
La petite licorne du rétro gamer, quoi.
Voilà, voilà, tout à fait.
C'est tout pour les anecdotes?
Ça sera tout.
Bah, on va parler pognon maintenant. C'est l'heure de l'Argus de Mikado Twix. Mikado Twix, voilà, ce Pilot Twix, comme l'a dit Looping. En plus, il y a une cartouche ultra collector, mais on va voir ce que vaut le jeu aujourd'hui. Et on va commencer, bien sûr, par le faire offre.
Eh ben, on va commencer pour une fois par Looping. Tiens, est-ce que combien tu estimes le jeu en loose aujourd'hui version européenne?
Ouais, ça, je pense que ça vaut rien. Je dirais 15 euros.
Ah bah je trouve que t'es même plutôt généreux parce que à mon grand étonnement, c'est un jeu qui depuis que je fais des cotes, bah qui cote le moins. Parce que bah en moyenne, moi
j'ai surpris dis donc.
J'étais un peu surpris parce que moi j'aime beaucoup d'amour ce jeu. Puis en fait, quand tu vois des soubis qui en parlent, tu te dis en fait ils font chuter les cotes de jeu. Et en moyenne, bah moi faut savoir que on va dire en version loose européenne, parce qu'en US je n'en ai malheureusement pas trouvé. Il faut savoir qu'il cote en moyenne entre 8 et grand max 15 euros. Voilà. Mais moi, perso, je l'avais acheté un Easy Cash il y a 6 mois à 4 euros, je crois, 4 ou 5 euros, tu vois.
Ah ouais, ça vaut rien.
Ça vaut rien du tout.
Bah, attends, 15 euros, c'est mon F0, je l'ai eu comme ça en boîte. Pour mettre ça Pilot Wings en loose, faut y aller quand même.
Ouais, mais quand je dis 15 euros, c'est parce que t'en as qui tente, mais on est plus proche des 6, 8 euros qu'autre chose, quoi. En version japonaise en loose, moi je l'ai trouvé même moins cher. Faut savoir qu'il cote en moyenne le plus cher que j'ai sous les yeux, c'est 5 euros. Comme le disait Looping, en même temps il a un intégral japonais et c'est un peu compliqué, je trouve. Enfin bon, pas pour jeu là, mais en général, j'imagine ça fait chuter un peu les cotes, quoi. Je sais pas.
Ouais, c'est...
Alors en revanche, si vous cherchez une édition complète, qui est pas très très jolie d'ailleurs la boîte, il faut savoir qu'il faudra débourser en moyenne 20 euros, frais de port compris.
Ouh.
Et en version US, 17 euros. Voilà.
Ouais, excuse-moi, juste pour dire, tu parlais justement des boîtes, que ça soit les japonaises ou européennes, elles sont très moches, je trouve.
Ouais.
Elles sont pas du tout accrocheuses. Tu sais pas que c'est un jeu d'avion en fait quand tu regardes les jaquettes.
Je me souviens plus comment elle est la version Jap, mais je sais que
ouais. Tu vois un ciel bleu et marqué Pilot Wing dessus.
Ah, exact. Ouais, je confonds. Voilà. Ouais, ouais. Bon, elles sont un peu. Enfin, elles sont dispensables, elles sont pas vraiment superbes, quoi.
Ouais.
Concernant justement cette version Jap, elle tourne autour du 18 euros. Et comme on en a un petit peu parlé en émission, j'ai regardé ce qui se faisait du côté de la Nintendo 64. Et en moyenne, il faudra compter entre 20 et 25 euros en complet. Et du 6 à 8 euros en loose.
Ça coûte cher la N64, je trouve.
Ouais, en général. Moi perso, je mettrais 5 euros maximum dans ce jeu-là. Et je vous ai quand même trouvé un petit prix de l'escroc parce que il en faut toujours un, sinon c'est pas drôle. Et je l'ai trouvé à 90 euros en complet en boîte sur Super Nintendo.
La vache,
ça fait beaucoup quand même.
Ouais. Et là, mais t'as des mecs qui tentent, hein. Ils disent c'est du rétro, c'est voilà.
Ouais, c'est ça.
Et puis un petit prix de l'escroc vite fait pour terminer, mais qui est un peu moindre sur N64. Il est à 63,92 € et à cela il faudra rajouter 14,07 € de frais de port.
Vache, il l'envoie à cheval ou quoi?
Je sais pas.
Il est balèze le gars.
Il l'envoie par pigeon voyageur, il en faut plusieurs, tu vois.
C'est ça.
Donc d'une manière générale, c'est pas un jeu qui cote à mort et moi perso 5 € grand maximum. Et pourtant j'aime bien ce jeu-là. Je l'ai acheté parce que je l'avais adoré ado et c'est le côté Madeleine de Proust plus qu'autre chose.
Quoi. Un jeu qui voilà qui cote pas des masses si vous voulez vous le procurer pour la collection, faire une petite après-midi dessus histoire de voir si on a été peut-être trop dur avec lui. Voilà, dites-nous hein, vous qui l'avez connu à l'époque, ce que vous en pensez de ce Pilotwings. Hein, si pour vous c'est toujours un petit plaisir de se relancer ou si vous n'avez pas accroché du tout ou que voilà le contenu est peut-être aussi trop faible pour vous, bah essayez, n'hésitez pas à le partager sur les forums de la case rétro. On est là pour lire aussi vos avis. Donc il va être temps de se quitter, messieurs. C'est malheureusement la fin de ce podcast consacré à Pilotwings, mais vous pouvez bien sûr poursuivre cette discussion avec nous sur les forums de la case rétro.fr. On vous y attend. Donc merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et bien entendu, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Ça nous fait plaisir de vous retrouver en 2015. On a encore de belles choses à vous proposer sur cette quatrième saison. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux, à nous laisser une note, un commentaire sur iTunes. Ça nous fera toujours plaisir de lire vos commentaires et vos remarques sur ce qu'on fait. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut.
Ciao. Salut.